Chapitre 5. Le bûcher brûlera durant toute la nuit. Thomas Hockenberry, titulaire d'un BA en lettres obtenu au Wabash College, d'un MA et d'un PhD en lettres classiques récolté à Yale, jadis professeur titulaire à l'Université de l'Indiana, responsable du département de lettres classiques jusqu'à son décès en 2006 des suites d'un cancer, et plus récemment, pendant une période de 10 ans, sur les 10 ans et 8 mois écoulés depuis sa résurrection, scoliaste homérique au service des dieux olympiens, tenu de fournir à sa muse, une dénommée Mélétée, un rapport quotidien sur le déroulement de la guerre de Troie et ses éventuelles divergences avec l'Iliade, les dieux étant aussi préalphabétisés que des bambins de 3 ans. Thomas Hockenberry, donc, s'éloigne de la Grand Place et du bûcher funéraire de Paris, peu de temps avant le crépuscule, pour monter en haut de la deuxième tour la plus haute de Troie, un lieu pourtant dangereux du fait des dégâts qu'il a subis, afin d'y déguster en paix du pain, du fromage et du vin. Aux yeux d'Hockenberry, la journée qui s'achève a été aussi longue qu'étrange. Cette tour, où il lui arrive souvent de s'isoler, est plus proche des portes scellées que du centre de la cité et du palais de Priam. Elle se trouve à l'écart des principales artères, et les entrepôts qui l'entourent sont totalement vides. Avant la guerre, c'était l'une des plus hautes de la ville. Sa forme évoquait celle d'un minaret surmonté d'un bulbe, et un homme du XXe siècle aurait estimé sa hauteur à 14 étages. Elle est fermée au public depuis qu'une bombe larguée par les dieux durant les premières semaines du conflit a démoli ses 3 étages supérieurs et tranché son bulbe en oblique, laissant les pièces du haut exposées au vent. Son puits principal présente d'inquiétantes fissures et son étroit escalier en spirale est jonché de gravats et de moellons. Lors de sa première visite, 2 mois auparavant, Hockenberry a mis plusieurs heures pour se frayer un chemin jusqu'au 11e étage. À la demande d'Hector, les Moraveks avaient barré l'entrée au moyen de rubans orange vif, plaçant en outre des pictogrammes censés prévenir les citoyens des dangers qu'ils couraient en ce lieu. À en croire le plus explicite, la tour risquait carrément de s'effondrer sur eux, et leur interdisant d'y pénétrer sous peine de châtiment royal. En moins de 72 heures, les pillards avaient volé tout ce qui pouvait l'être, après quoi plus personne n'avait mis les pieds ici. À quoi bon fouiller un bâtiment vide ? Hockenberry s'insinue entre les rubans orange, actionne sa lampe torche et gagne les étages supérieurs sans craindre d'être arrêté ou agressé. Il est armé d'un glaive et d'un coutelas. En outre, il est bien connu de tous. Thomas Hockenberry, fils de Duane, ami de... non pas ami, interlocuteur occasionnel d'Achille, mais aussi d'Hector, personnage public également familier des Moraveks et des Rockveks. Rares sont les Grecs ou les Troyens qui oseraient s'en prendre à lui. Quant aux dieux, eh bien, c'est une autre histoire. Hockenberry commence à halter au 3e étage. Il est franchement essoufflé au 10e, et lorsqu'il arrive au 11e, il émet des râles rappelant la Packard modèle 1947 que possédait jadis son père. Cela fait plus de 10 ans qu'il observe ces demi-dieux humains, les Grecs comme les Troyens, occupés à faire la guerre, la fête et l'amour, évoquant des publicités pour le club de remise en forme le plus performant de la planète, sans parler des dieux, mâles et femelles, qui font penser quant à eux à des publicités pour le club de remise en forme le plus performant de l'univers. Mais lui, Thomas Hockenberry, PhD, n'a jamais pris le temps de faire un peu de gym. « Tu m'étonnes », se dit-il. L'escalier suit l'axe de symétrie du bâtiment cylindrique. Comme les pièces sont dépourvues de portes, la lumière vespérale lui parvient grâce aux fenêtres découpées dans les murs, mais il règne néanmoins une pénombre tenace. La lampe torche lui permet de s'assurer qu'aucun nouveau moellon n'est tombé sur les marches. Au moins les murs sont-ils vierges de graffiti, l'un des rares avantages d'un illettrisme universel de la vie du professeur Thomas Hockenberry. Comme chaque fois qu'il atteint son petit havre au dernier étage du bâtiment décapité, dans un espace à ciel ouvert qu'il a débarrassé de ses gravats et du plus gros de ses débris de plâtre, il décide que ça valait la peine de monter jusque-là. Hockenberry s'assied sur son bloc de pierre préféré, pose son paquetage, range sa lampe torche, prêtée quelques mois plus tôt par un Moravec, et attrape sa gamelle contenant du pain frais et du fromage desséché. Il n'oublie pas son outre de vin. Parfaitement à l'aise, sentant le vent venu de la mer caresser ses longs cheveux et sa barbe, coupant des tranches de fromage avec son coutelas pour les étaler sur son pain, Hockenberry contemple la vue qui s'offre à lui et se purge des tensions de la journée. Elle est splendide, cette vue. Elle se déploie sur 300 degrés, seul un pan de mur encore debout l'empêchant d'être tous azimuts, et Hockenberry embrasse du regard la quasi-totalité de la ville en contrebas. Le bûcher funéraire de Paris, distant de quelques centaines de mètres, lui semble tout proche. Les remparts où l'on allume présentement torches et feux de camp, et les campements achéens s'étalant sur des kilomètres le long de la côte, au nord comme au sud, et dont l'immense chapelet de feux de camp lui rappelle l'aperçu qu'il avait eu un jour en avion de Lakeshore Drive, la célèbre avenue de Chicago, tous ces immeubles résidentiels qui se paraient de lumière à la tombée de la nuit. Et voilà qu'il distingue, flottant sur la mer vineuse, la trentaine de nefs noires composant la flottille d'Agamemnon, qui mouille encore au large, alors qu'on aurait dû les amener sur la plage. Le camp d'Agamemnon, quasiment désert depuis 6 semaines, est empli ce soir-là de lumière et de bruit. Le ciel est loin d'être vide. Au nord-est, le dernier des trous ouverts dans l'espace-temps, un trou de Bran, s'il a bien compris, on se contente désormais de l'appeler le trou, découpe dans le ciel troyen un disque où la plaine d'Ilium se fond dans l'océan martien. La terre brune d'Asie mineure se transforme en sable rouge de Mars, sans que la moindre fissure forme une solution de continuité. La soirée est moins avancée sur Mars, où s'attarde encore un crépuscule rougeoyant, de sorte que les contours du trou se découpent avec netteté sur le fond de ciel nocturne terrien. Il voit clignoter les balises de navigation rouge et verte d'une vingtaine de frelons morts avec, qui patrouillent au-dessus du trou et de la ville, survolant aussi la mer et poussant jusqu'au flanc boisé du mont Ida, qui forme à l'est une ombre massive à peine entrevue. Le soleil vient tout juste de se coucher, un peu tôt puisqu'on est en hiver, mais les rues de Troie sont encore animées. Sur la place du marché, non loin du palais de Priam, les derniers marchands à avoir replié leurs échoppes s'éloignent en traînant leurs carrioles, en dépit du vent, Hockenberry entend grincer leurs roues sur le pavé, mais les rues avoisinantes, peuplées de lupanards, de gargotes, d'établissements de bains et encore de lupanards, se remplissent de vives lumières et de formes furtives. Comme le veut la coutume troyenne, tous les carrefours de la cité, ainsi que tous les angles de son mur d'enceinte, sont éclairés la nuit durant par des braseros de bronze où brûlent des feux alimentés par l'huile ou par le bois. Et les préposés à leur allumage sont en train d'achever leur ronde. Hockenberry distingue des formes obscures qui se pressent autour d'eux pour s'y réchauffer. À une exception près. Sur la grande place d'Ilium, le bûcher funéraire de Paris brûle avec plus d'intensité que tous les autres feux de la ville, mais on ne voit qu'une seule silhouette auprès de lui, celle d'Hector, qui pleure et gémit tout son saoul, qui ordonne à ses soldats et à ses serviteurs de jeter du bois aux flammes dévorantes, et qui, plongeant dans un bol d'or une coupe pourvue de 2 anses, verse sur le sol du vin en quantité telle qu'on croirait que la terre ici est imbibée de sang. Hockenberry achève son frugal dîner lorsqu'il entend un bruit de pas dans l'escalier en spirale. Soudain, il sent son cœur battre plus fort et la peur lui assèche le palais. Quelqu'un l'a suivi jusqu'ici. Cela ne fait guère de doute. L'intrus progresse d'une démarche légère, comme par souci de discrétion.
C'est peut-être une faible femme qui fait les poubelles, songe-t-il, mais cet espoir s'envole aussitôt qu'il le formule.
Il entend résonner un léger écho métallique, comme le cliquetis d'une armure de bronze. En outre, il sait d'expérience que les femmes de Troie sont infiniment plus dangereuses que les hommes de son époque. Hockenberry se lève en faisant le moins de bruit possible, pose par terre son pain, son fromage et son outre de vin, dégaine son épée en silence et s'adosse au seul mur qui soit encore debout. Le vent se lève et fait gonfler sa cape rouge sous laquelle il dissimule son arme.
Mon médaillon têtu.
De la main gauche, il caresse le petit téléporteur quantique qui repose contre son torse sous le tissu de sa chemise.
Pourquoi donc pensais-je ne posséder aucun objet précieux? Je ne peux plus utiliser ce gadget sans me faire aussitôt repérer par les dieux, mais il n'en est pas moins unique. Inestimable.
Hockenberry empoigne sa lampe torche et la braque devant lui, comme le taser dont il disposait naguère. Il regrette amèrement qu'on le lui ait confisqué. Il songe soudain que c'est peut-être un dieu qui vient le rejoindre au 11e étage. Il arrive que les maîtres d'Olympos se déguisent en mortels pour visiter Ilium. Et les dieux ont d'excellentes raisons de le tuer et de lui reprendre son médaillon têtu. Une silhouette émerge de l'escalier pour se dresser devant lui.
Hockenberry actionne sa lampe torche et la braque sur l'intrus. Il s'agit d'une petite créature à peine humanoïde. Ses jambes comme ses bras sont pourvues d'articulations contre nature, ses mains sont interchangeables, et elle n'a pas de visage digne de ce nom. Haute d'un mètre à peine, elle est pourvue d'un épiderme de plastique sombre et de métal gris, noir et rouge. « Mammouth !» dit Hockenberry en poussant un soupir de soulagement. Il écarte le faisceau de sa lampe de la plaque visuelle du petit Moravec d'Europe.
« Vous portez une épée sous votre cape ou vous êtes tout simplement content de me voir ?»
lui demande celui-ci en anglais. Hockenberry a l'habitude d'apporter du combustible chaque fois qu'il monte dans son refuge. Ces derniers mois, il a souvent dû se contenter de briquettes de bouse séchée, mais ce soir, il dispose de fagots à la douce odeur de forêt, vendus au marché noir par ces mêmes bûcherons qui sont allés couper et ramasser du bois pour le bûcher de Paris. Mammouth et lui se sont assis autour d'un petit feu qui brûle allègrement. Le vent est glacial et Hockenberry se félicite de sa prévoyance.
« Ça fait quelques jours que je ne vous ai pas vu, » dit-il au petit Moravec.
Il contemple les reflets ondoyants des flammes sur les plaques visuelles de Mammouth.
« J'étais sur Phobos. »
Il faut quelques secondes à Hockenberry pour se rappeler que Phobos est l'une des lunes de Mars, la plus proche de la surface, pense-t-il. Ou alors la plus petite, une lune enfin. Il se tourne vers le gigantesque trou qui s'ouvre à quelques kilomètres de Troie. La nuit est aussi tombée sur Mars, et si le disque formé par le trou est encore perceptible, c'est uniquement parce que les étoiles de là-bas sont légèrement différentes de celles d'ici, plus brillantes, plus denses ou les deux. On n'aperçoit aucune des deux lunes martiennes.
Il s'est passé quelque chose d'intéressant pendant mon absence ?
S'enquiert Mammouth. Hockenberry ne peut s'empêcher de glousser. Il relate au petit Moravec les funérailles du matin et l'immolation de Donné.
Peste !
Fait Mammouth. L'ex-scoliate suppose que le Moravec s'efforce d'utiliser un idiome qu'il juge approprié à l'époque où a vécu son interlocuteur. Certaines fois, il met dans le mille, d'autres, comme aujourd'hui, il confine au risible.
Je ne me rappelle pas avoir lu dans l'Iliade que Paris était déjà marié,
poursuit Mammouth.
Je ne pense pas que ce détail soit mentionné dans le texte.
Hockenberry s'efforce de se rappeler les cours qu'il donnait jadis. Jamais il n'a abordé le personnage de Nonnet.
Voilà qui a dû constituer un épisode spectaculaire.
Oui, dit Hockenberry, mais bien moins que les accusations qu'elle a lancées à l'encontre de Philoctète.
Philoctète ?
Mammouth incline la tête sur le côté en une mimique franchement canine. Pour une raison qu'il ignore, Hockenberry pense qu'il adopte cette attitude lorsqu'il accède à ses banques de mémoire.
Celui de la pièce de Sophocle ?
Demande Mammouth au bout d'une seconde.
Oui. À l'origine, c'était le chef des Thessaliens de Métonée.
Je ne crois pas l'avoir vu figurer dans l'Iliade,
dit Mammouth.
Et je ne pense pas davantage l'avoir rencontré ici.
Hockenberry secoue la tête.
Agamemnon et Odysseus l'avaient abandonné sur l'île de Lemnos alors qu'ils faisaient voile vers Ilium.
Pourquoi donc ?
S'enquiert Mammouth. On perçoit une indéniable curiosité dans sa voix aux accents humains.
Essentiellement parce qu'il puait.
Ah bon ? C'est pourtant le lot de tous ces héros, ou presque.
Hockenberry ne peut s'empêcher de tiquer. Il se rappelle s'être fait la même réflexion 10 ans plus tôt, alors qu'il débutait son travail de scoliaste, peu de temps après sa résurrection sur Olympos. Mais il avait cessé de s'en soucier au bout de 6 mois. « Peut-être bien que je pue, moi aussi, » songe-t-il.
« Si Philoctète sentait aussi mauvais, » précise-t-il, « c'était à cause de sa blessure suppurante. »
« Une blessure ?»
Une morsure de serpent. Un serpent venimeux l'avait mordu lorsque... Enfin, c'est une longue histoire. Le motif classique du héros puni pour avoir volé les dieux. Mais la plaie de Philoctète s'était tellement infectée qu'elle suintait le pus, empoisonnait l'atmosphère et le plongeait fréquemment dans des crises de folie furieuse. Sur les conseils d'Odysseus, Agamemnon a fini par le larguer sur l'île de Lemnos, le condamnant à y pourrir sur place au sens littéral du terme.
Sauf qu'il a survécu.
C'est ça ? Selon toute évidence. Les dieux l'ont maintenu en vie pour une raison connue d'eux seuls, mais sa jambe et son pied ne cessaient de pourrir, ce qui lui faisait souffrir le martyr.
Mammouth incline de nouveau la tête.
Oui. Je me rappelle la pièce de Sophocle à présent. Odysseus est allé le chercher après que le devin Hélénos, capturé par les Grecs, eut déclaré à ceux-ci qu'il ne pourrait conquérir Troie que grâce à l'arc de Philoctète. Un arc qui lui avait été offert par... par Héraclès? Par Hercule?
Oui, c'est de lui qu'il l'avait hérité. Opine Hockenberry.
Je ne me souviens pas qu'Odysseus soit allé le chercher. Pour de bon, je veux dire, lors des 8 derniers mois.
Hockenberry secoue la tête une nouvelle fois.
Cela s'est fait dans la discrétion. Odysseus s'est absenté 3 semaines à peine et tout le monde n'y a vu que du feu. Lorsqu'il est revenu, il a sorti un boniment du genre « j'ai ramené du vin et sur le chemin j'ai récupéré ce bon vieux Philoctète ».
Néoptolème, le fils d'Achille, est l'un des principaux personnages de la pièce de Sophocle,
reprend Malmuth.
Mais jamais il n'a rencontré son père du vivant de celui-ci. Ne me dites pas qu'il a débarqué ici, lui aussi.
Pas à ma connaissance, répond Hockenberry. On n'a vu arriver que Philoctète. Et son arc.
Et Œnone affirme que c'est lui et non Apollon qui a tué Paris.
Exact.
Hockenberry jette dans le feu quelques morceaux de bois. Emportés par le vent, des escarbilles montent vers les étoiles. Au-dessus de la mer, le ciel est noir de nuages. Sans doute pleuvra-t-il avant le lever du jour, se dit Hockenberry. Il lui arrive parfois de dormir ici, avec son paquetage en guise d'oreiller et sa cape en guise de couverture. Mais il n'en fera rien cette nuit.
Mais comment Philoctète a-t-il pu passer en temps ralenti?
Demande Malmuth. Le Moravec se lève pour aller jusqu'au bord de la terrasse, visiblement immunisé contre la peur du vide.
Seul Paris avait bénéficié de la technologie nécessaire à cette prouesse préalablement à son combat singulier avec Apollon, n'est-ce pas?
Vous êtes bien placé pour le savoir, rétorque Hockenberry. Ce sont les Moravec qui ont ainsi armé Paris afin qu'il soit de taille à affronter le dieu.
Malmuth revient auprès du feu, sans pour autant se rasseoir. Il tend les mains vers les flammes comme pour les réchauffer. Et c'est peut-être bien ce qu'il fait, se dit Hockenberry. Il sait que certains éléments du Moravec sont de nature organique.
Certains des autres héros, Diomède par exemple, sont toujours équipés des nanohamas que l'auront injecté Athénée ou l'un de ses collègues, dit Malmuth. Mais vous avez raison. Seul Paris en a été équipé il y a 10 jours, en vue de son combat contre Apollon.
Et Philoctète n'était pas ici durant les 10 dernières années,
enchaîne Hockenberry.
Qu'un dieu l'ait équipé des nanomèmes lui permettant de passer en temps ralenti, cela n'a pas de sens. Et il s'agit en fait d'une accélération et non d'un ralentissement, c'est ça?
En effet, dit le Moravec. L'expression « temps ralenti » est mal choisie. Le sujet a bien l'impression que le temps s'est arrêté de couler, que les êtres et les choses autour de lui sont comme figés dans l'ambre. Mais c'est en fait son corps qui est passé en mode hyper rapide, son temps de réaction se mesurant en millisecondes.
Et... pourquoi le sujet en question ne brûle-t-il pas?
Demande Hockenberry. Il aurait pu passer lui aussi en temps ralenti pour assister au combat opposant Paris à Apollon. En fait, il n'aurait pas hésité à le faire s'il s'était trouvé là au bon moment. Les dieux lui avaient farci les os et les veines de nanomèmes dans ce but précis, et il les avait maintes fois observés en train de préparer au combat l'un de leurs favoris troyens ou achéens.
Sous l'effet de la friction, reprend-il. Le frottement de l'air, ou je ne sais quoi.
Il laisse sa phrase inachevée. La science n'a jamais été son fort. Mais Malmuth opine du chef comme s'il venait de dire quelque chose d'intelligent.
L'organisme du sujet en temps ralenti finirait effectivement par brûler, du simple fait du dégagement de chaleur interne, si les nanohamas n'étaient pas aussi conçus pour régler ce problème. La solution se trouve dans le champ de force nanogénéré.
Comme pour Achille?
Oui.
Et si c'était cela qui avait consumé Paris? Un dysfonctionnement des nanos?
Très improbable,
répond Malmuth en se rasseyant sur son petit bloc de pierre.
Mais pourquoi ce Philoctète aurait-il tué Paris? Quel pouvait être son mobile?
Hockenberry hausse les épaules.
Dans les récits troyens dus à d'autres auteurs qu'Homère, c'est Philoctète qui tue Paris, avec son arc et une flèche empoisonnée, exactement comme l'a décrit Œnone. Homère mentionne même la prophétie selon laquelle la venue de Philoctète est nécessaire à la chute d'Ilium, dans le chant 2, je crois bien.
Mais Grecs et Troyens sont désormais alliés.
Hockenberry ne peut s'empêcher de sourire.
Une alliance des plus fragiles. Vous savez aussi bien que moi que chaque camp a sa part de complot et de rébellion en puissance. Achille et Hector exceptés. Personne n'est ravi de faire la guerre aux dieux. Un soulèvement est inévitable, ce n'est qu'une question de temps.
Mais Achille et Hector forment un duo presque imbattable. Et plusieurs dizaines de milliers de soldats leur sont restés fidèles.
pour le moment, tempère Oakenberry, et peut-être que les dieux eux-mêmes commencent à mettre leur grain de sel.
Vous pensez qu'ils ont aidé Philoctète à passer en temps ralenti? Mais pourquoi faire? S'ils voulaient la mort de Paris, le plus simple était de laisser Apollon le tuer, et d'ailleurs, tout le monde est persuadé que c'est ce qui s'est passé. Ou l'était jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que Nonnet lance ses accusations. Mais pourquoi le faire assassiner par un...
Manmuth se tait, puis murmure.
Ah, Harry.
Eh oui, fait Oakenberry. Les dieux veulent précipiter la mutinerie, se débarrasser d'Achille et d'Hector et mettre un terme à l'alliance entre Grecs et Troyens, afin qu'ils recommencent à s'entretuer.
D'où la flèche empoisonnée,
dit le Moravec.
Paris survit assez longtemps pour communiquer l'identité de son meurtrier à son épouse, à sa première épouse. Les Troyens exigent vengeance, et même les Grecs fidèles à Achille n'hésiteront pas à se défendre. S'est-il produit autre chose d'intéressant aujourd'hui?
Agamemnon est de retour.
Sans déconner,
fait Manmuth.
Il faut vraiment que je lui parle à propos de son vocabulaire,
se dit Oakenberry.
J'ai l'impression de parler à un de mes premières années de l'Indiana.
Exact, sans déconner, répète-t-il. Il est revenu un mois ou deux plus tôt que prévu, porteur de nouvelles assez surprenantes.
Manmuth se penche d'un air intéressé. Du moins, c'est ainsi qu'Oakenberry interprète le langage corporel du petit cyborg humanoïde. Sur son visage lisse de métal et de plastique, on n'aperçoit rien d'autre que le reflet des flammes. Oakenberry s'éclaircit la gorge.
« Les gens qui sont restés au pays ne sont plus là, » déclare-t-il. « Ils ont tous disparu. »
Il s'était attendu à une manifestation de surprise, mais le petit Moravec attend la suite sans broncher.
« Tous, jusqu'au dernier, » reprend Oakenberry. « Non seulement à Mycène, la première escale d'Agamemnon, mais partout ailleurs. » Non seulement sa femme Clytemnestre, son fils Oreste et le reste de la troupe, mais la population tout entière. Les cités sont désertes. Les tables sont couvertes d'aliments. Les chevaux meurent de faim dans les écuries. Les chiens gémissent dans les maisons vides. Les vaches attendent la traite dans les pâtures. Les moutons attendent la tonte. Et la même scène attendait Agamemnon et ses nefs dans tout le Péloponnèse et au-delà. La Lacédémone de Ménélas, vide. L'Ithaque d'Odysseus, vide.
Oui,
fait Manmuth.
« Minute !» dit Oakenberry. « Vous n'êtes absolument pas surpris. »« Vous le saviez ? Les Moravecs savaient que les cités et les royaumes grecs étaient vides de leurs occupants ?»«
Comment ?»«
Vous voulez dire, comment l'avons-nous su ?»« C'est très simple. Depuis notre arrivée, nous surveillons tous ces lieux depuis l'orbite terrestre. Et nous y avons envoyé plusieurs drones afin de collecter des données. Nous avons beaucoup à apprendre de la Terre telle qu'elle était 3000 ans avant votre époque. » C'est-à-dire 3000 ans avant les 20e et 21e siècles.
Oakenberry en reste sans voix. Il savait déjà que les Moravecs s'intéressaient à Troie, aux champs de bataille alentour, aux trous, à Mars, au mont Olympos, aux dieux, à une lune martienne ou à l'autre. Seigneur, cela ne leur suffisait donc pas.
Mais quand les gens ont-ils disparu?
Réussit-il à articuler.
D'après ce que dit Agamemnon, certains des aliments abandonnés sur les tables étaient encore frais.
Tout dépend de la définition que vous avez de la fraîcheur,
réplique Manmuth.
Selon notre dispositif de surveillance, les gens ont disparu il y a 4 semaines et demie, alors que la flottille d'Agamemnon était en vue du Péloponnèse.
Tout Jésus, murmure Oakenberry.
Oui.
Vous les avez vus disparaître? Avec vos satellites, vos sondes, que sais-je?
Pas vraiment. À un instant donné, ils étaient là, et l'instant d'après, il n'y avait plus personne. C'est arrivé vers 2 heures du matin, hors grec, de sorte qu'il n'y avait pas grand-chose à voir. Dans les cités grecques, je veux dire.
Dans les cités grecques?
Répète Oakenberry d'une voix atone.
Vous voulez dire que d'autres personnes ont disparu? En Chine, par exemple?
Une bourrasque souffle soudain sur leur air, projetant des escarbilles dans toutes les directions. Oakenberry se protège le visage des mains, puis chasse les braises et les cendres qui se sont posées sur ses vêtements. Lorsque le vent se calme, il jette dans le foyer son dernier bout de bois. Exception faite de Troie et d'Olympos, lequel, ainsi qu'il l'a découvert 8 mois plus tôt, ne se trouve même pas sur Terre, Oakenberry n'a visité qu'un seul lieu depuis son retour, à savoir l'Indiana préhistorique, où il a déposé son collègue scoliaste Keith Knighton-Elser, alors que la muse était prise de folie meurtrière
découvrant par la suite qu'il s'était intégré à une tribu d'Indiens. Sans même en avoir conscience, Hockenberry palpe le médaillon têtu sous sa chemise.
Il faut que j'aille voir ce que devient Nathan Elser.
C'est comme si le Moravec lisait dans ses pensées.
Tous les êtres humains ont disparu, à l'exception de ceux qui se trouvaient à moins de 500 kilomètres de Troie,
déclare-t-il.
Les Africains, les Indiens d'Amérique du Nord, ceux d'Amérique du Sud, les Chinois et les Aborigènes d'Australie, les Polynésiens, les Huns, les Danois et les futurs Vikings, les Proto-Mongols, tous les habitants de la planète, nous estimons leur nombre à 22 millions, se sont purement et simplement évaporés.
C'est impossible,
proteste Hockenberry.
Apparemment.
Quelle puissance aurait...
Une puissance divine.
Pas ces dieux olympiens, quand même. Ce ne sont que des...
Que des humanoïdes plus puissants que la moyenne,
propose Mammouth.
Oui, c'est ce que nous pensons. Il y a d'autres énergies à l'œuvre dans cette histoire.
Dieu ?
Murmure Hockenberry, qui a reçu une éducation baptiste plutôt stricte avant de renoncer à la foi en faveur de l'éducation.
Peut-être bien,
répond le Moravec.
Mais alors, il a élu domicile sur la planète Terre. Au moment où Agamemnon et sa famille disparaissaient, des quantités colossales d'énergie quantique étaient libérées sur Terre ou en orbite terrestre.
Cette énergie venait de la Terre,
répète Hockenberry. Il jette un regard circulaire sur la nuit, sur le bûcher funéraire, sur la cité qui commence à s'animer, sur les feux de camp achéens dans le lointain, sur les étoiles à l'infini.
Elle venait d'ici.
Pas de cette terre,
répond Mammouth.
De l'autre terre, la vôtre. Et on dirait que nous allons y faire un tour.
Le cœur d'Hockenberry se met à battre si fort qu'il craint un instant de succomber à un malaise. Puis il comprend que Mammouth ne parle pas en fait de sa terre, le monde du 21e siècle où il a vécu avant que les dieux le ressuscitent à partir de son ADN, de ses livres et de Dieu sait quoi d'autre. Ce monde, qui lui revient lentement en mémoire et où figurait l'université de l'Indiana, son épouse et ses étudiants, mais de la terre concomitante à cette Mars terraformée où plus de 4000 ans se sont écoulés après que Thomas Hockenberry eut connu une première et malheureuse existence. Incapable de tenir en place, il se met à faire les 100 pas parmi les ruines du 11e étage, allant du mur fracassé de la façade nord-est au précipice qui s'ouvre côté sud-ouest. Sa sandale heurte un caillou qui échoue dans les rues enténébrées à l'issue d'une chute de 30 mètres. Le vent fait gonfler sa cape et ébouriffe ses longs cheveux grisonnants. Sur le plan intellectuel, cela fait 8 mois qu'il sait que la Mars visible par-delà le trou coexiste avec une Terre future, sans parler du reste du système solaire, mais jamais il n'avait déduit de ce fait la conclusion qui s'impose maintenant à lui. Cette autre terre est là, et elle l'attend.
« Les os de ma femme sont enfouis dans son sol, »
songe-t-il. Puis il éclate de rire pour ne pas pleurer.
« Mes propres os sont enfouis dans ce sol, bon sang !»« Comment pouvez-vous aller sur cette terre ?»
À peine a-t-il posé cette question qu'il se rend compte de sa stupidité. Il sait pourtant que Mammouth et son gigantesque ami Orphus sont arrivés sur Mars en provenance de Jupiter, accompagnés d'autres Moraveks qui n'ont pas survécu à leur première rencontre avec les dieux.
Ils ont des astronefs Hockenbush.
Même si la plupart des bâtiments Moraveks et Roqueveks sont apparus comme par magie grâce aux trous quantiques ouverts suite à l'intervention de Mammouth, il s'agit néanmoins de vaisseaux spatiaux.
Nous sommes en train de construire un vaisseau sur Phobos et dans son voisinage,
répond le Moravec à voix basse.
Cette fois-ci, nous ne serons pas seuls, ni désarmés.
Hockenberry n'arrête pas de faire les 100 pas. Arrivé au bord du précipice, il éprouve la subite tentation de faire le grand saut, une tentation qui le visite depuis l'enfance chaque fois qu'il se trouve dans un endroit élevé.
Est-ce pour cela que j'aime bien venir ici? Parce que j'ai envie de sauter? De me suicider?
Et il comprend que c'est vrai. Il prend conscience de la solitude qui est la sienne depuis 8 mois.
Et maintenant, Nathan Elser a disparu lui aussi, avalé avec ses Indiens par l'aspirateur cosmique qui a englouti tous les habitants de cette terre, mis à part ces pauvres crétins de Grecs et de Troyens.
Hockenberry sait qu'il lui suffit de manipuler le médaillon TQ reposant sur son torse pour gagner l'Amérique du Nord en un rien de temps, pour partir à la recherche de son ami et collègue dans l'Indiana préhistorique où il l'a déposé 8 mois plus tôt. Mais il sait aussi que les dieux n'auront aucune peine à suivre sa piste dans les interstices de Planck. C'est pour ça qu'il n'a plus touché à son médaillon depuis 8 mois. Il regagne le feu de camp et se dresse au-dessus du petit Moravec.
« Pourquoi me racontez-vous tout ça ?»«
Nous vous invitons à nous accompagner, »
répond Manmuth. Hockenberry se laisse choir comme une masse. Au bout d'une minute, il réussit à demander
« Pourquoi, bon Dieu ? À quoi pourrais-je vous servir dans une telle expédition ?»
Manmuth hausse les épaules d'une façon fort humaine.
« Vous êtes originaire de ce monde ?»
réplique-t-il.
« Sinon de cette époque. Il y a des humains sur cette terre, vous savez ?»«
Ah bon ?»
Hockenberry a conscience de sa surprise et de sa stupidité. Jamais il n'avait pensé à poser la question.
« Oui, pas beaucoup. Apparemment, la majorité des humains ont évolué au stade de post-humain pour s'installer, il y a 1400 ans, dans des anneaux de cités orbitales. Mais, à en croire nos observations, il subsiste quelques centaines de milliers d'humains à l'ancienne. »
Des humains à l'ancienne,
répète Hockenberry sans plus se soucier de dissimuler sa stupéfaction.
Comme moi.
Exactement.
Lorsque Manmuth se lève, ses organes visuels arrivent à peine au niveau de la taille d'Hockenberry. Celui-ci, qui n'a jamais été un géant, comprend soudain ce que doit ressentir un dieu de l'Olympe face à un mortel ordinaire.
Nous estimons que vous devriez nous accompagner,
reprend le Moravec.
Vous pourriez nous être d'une aide précieuse lorsque nous rencontrerons les humains de ce qui est votre avenir.
Tout Jésus,
s'exclame à nouveau Hockenberry. Il se dirige une nouvelle fois vers le précipice, se rendant compte à quel point il lui serait facile de faire le grand saut. Cette fois-ci, les dieux ne prendraient plus la peine de le ressusciter.
Tout Jésus.
Hockenberry distingue la silhouette d'Hector près du bûcher funèbre de Paris, toujours occupé à verser du vin sur le sol et à ordonner à ses soldats de jeter du bois dans le feu.
« C'est moi qui ai tué Paris, »
se dit Hockenberry.
« C'est moi qui ai tué les hommes, les femmes, les enfants et les dieux qui ont péri depuis que je me suis morphé en Athénée pour enlever Patrocle, pour faire semblant de le tuer, afin d'inciter Achille à attaquer les dieux. »
Hockenberry part soudain d'un rire amer, sans même se soucier de passer pour un cinglé auprès de la petite machine derrière lui.
« Je suis cinglé, fou allié. Si je n'ai pas fait le grand saut jusqu'ici, c'est en partie parce que cela aurait passé pour un abandon de poste, comme s'il était encore de mon devoir d'observer les événements, comme si j'étais encore un scoliaste tenu de faire son rapport à la muse, elle-même tenue de faire le sien au dieu. Je suis complètement cinglé. »
Pour la énième fois, il a envie de pleurer.
« Voulez-vous nous accompagner sur Terre, docteur Hockenberry ?»
demande Manmuth à voix basse.
« Oui, bien sûr. Merde. Pourquoi pas ? Quand partons-nous ?
Pourquoi pas tout de suite ?»
rétorque le petit Moravec. Le frelon devait planer à quelques centaines de mètres d'altitude, tout feu éteint. Voilà que la machine noire hérissée de barbelure tombe des ténèbres avec une telle soudaineté qu'Hockenberry manque bel et bien de faire le grand saut. Une vive bourrasque l'aide à recouvrer son équilibre et il reprend pied sur le sol alors qu'une rampe se déroule depuis le ventre du frelon pour venir se poser sur la pierre. Hockenberry distingue une lueur rouge à l'intérieur de l'appareil.
« Après vous ?»
dit Manmuth.